France Inter.
Aujourd'hui, crise de l'eau, un appel à la mobilisation générale, raconté par...
Fabrice Nicolino, je suis journaliste et je m'intéresse à l'écologie depuis des dizaines d'années.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans le silence d'un ciel chargé, une goutte d'eau se forme. Elle naît dans un nuage porté par les vents, glisse au-dessus des montagnes, des villes ou des déserts. Elle croit encore être pure. Elle descend comme tant d'autres avant elle, persuadée d'apporter la vie, de rafraîchir les sols, d'alimenter les sources. Mais cette goutte de pluie n'est plus comme les autres. Elle a traversé un air saturé de particules invisibles. Accroché à elle, un cortège de molécules issues des activités humaines, des composés synthétiques que l'on retrouve dans les emballages, les vêtements, les produits antiadhésifs, les mousses industrielles. On les appelle les polluants éternels car rien ne les détruit, rien ne les freine. Ils montent dans l'atmosphère, voyagent avec les vents et s'invitent dans chaque pluie. Partout, les chercheurs les retrouvent dans les forêts reculées, sur les glaciers, au cœur des terres prétendument vierges. En 2022, une équipe de scientifiques suédois publie une étude retentissante. Selon leurs travaux, il n'existe plus un seul endroit sur Terre où l'eau de pluie serait potable selon les normes internationales. Partout, les seuils sont dépassés, même là où l'on pensait être à l'abri. Cette étude fait figure de basculement historique car une simple goutte de pluie porte désormais les cicatrices de notre époque et peut devenir une menace. Au-delà de la pluie, c'est toute l'eau qui vacille, celle des nappes, des rivières, celle qui s'infiltre dans les sols, irrigue les cultures intensives, alimente les golfs, les piscines, les canons à neige, celle qui refroidit les réacteurs nucléaires ou les data centers. Partout, l'eau est surexploitée, souillée, sacrifiée. Faut-il rappeler que nous sommes faits d'eau, notre cerveau en contient 80%, nos cellules en dépendent et notre avenir aussi. Il pleut donc toujours aujourd'hui sur la planète, mais ce n'est plus la même pluie. Ce sont les gouttes d'un monde qui semble déborder de toutes parts. L'eau est notre bien commun, notre mémoire liquide, notre avenir. Et la défendre aujourd'hui n'est plus une option. Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour.
Aujourd'hui paraît votre nouveau livre « C'est l'eau qu'on assassine ». C'est le titre aux éditions « Les liens qui libèrent ». Je disais dans le titre, c'est un appel à la mobilisation générale, hein, c'est ce que vous dites aussi.
Ah oui,
hein.
Ah oui, absolument, vous avez raison, c'est un appel à la société. Sans esprit de révolte, il faut bien le dire, pacifique mais réel, complète, on n'y arrivera pas. Parce qu'on assiste à un événement qui est fracassant, vous l'avez dit dans votre introduction, nous sommes de l'eau, nous sommes fondamentalement de l'eau. Vous parliez des humains, des adultes, mais un embryon de 3 jours, c'est 97% d'eau, vous voyez. Donc on est vraiment de l'eau. Et cette eau a changé radicalement au point que aujourd'hui, il faut réagir. Et je rappelle rapidement, mais c'est important de le dire, parce que beaucoup de vos auditeurs ont entendu parler ou ont agi avec nous il y a quelques années. J'avais créé le mouvement des coquelicots pour obtenir l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. On avait obtenu à l'époque 2 300 000 signatures, dont la moitié récupérée sur le terrain. Et donc, c'est un peu dans la logique, dans la poursuite de ce mouvement, que je me dis, oui, il faut agir, il faut que la société bouge et se mobilise.
Alors, c'est vrai que vous avez été de toutes les bagarres, Fabrice Nicolino, vous le rappelez dans ce livre, hein, le Larzac, vous aviez 17 ans, Plogoff, les insectes, les pesticides, donc avec l'appel des coquelicots. Et aujourd'hui, ce texte sur l'eau, l'écologie, écrivez-vous, c'est la seule patrie que je reconnaisse.
Oui, parce que l'idée de patrie redevient quelque chose de très important dans le discours public et à bien choisir de patrie au sens politique, au sens des frontières, je n'en connais aucune. En revanche, l'écologie, qui est pour moi synonyme de la vie, eh bien ça, oui, on peut dire que je reconnais sans aucune difficulté cette patrie-là. Une patrie que je suis tout à fait prêt à défendre et d'ailleurs... Comme vous le disiez, je l'ai montré depuis très longtemps.
Oui, 50 ans de lutte. Vous avez toujours la même niaque, d'ailleurs, pour vous battre, alors que même l'écologie a quand même perdu de nombreux combats. Hein.
Oui, l'écologie a perdu. Vous connaissez la phrase de De Gaulle. Hein, je veux dire, on n'a pas perdu encore la guerre. On a perdu énormément de combats. Aussi, peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Peut-être qu'on ne s'est pas situé de la bonne manière face à une menace globale qui nous concerne tous, en dehors de toutes les conséquences considérations idéologiques. C'est fondamentalement, l'idéologie est seconde dans cette histoire. On est face à une menace globale sur notre existence, sur nos conditions d'existence, et c'est ça qu'il faut considérer.
Ouais. L'eau, c'est évidemment un sujet absolument vital, non seulement parce que nous sommes des êtres d'eau, mais qu'on en a besoin évidemment pour vivre. Plus une semaine sans qu'on entende parler d'ailleurs de l'eau, la crise est réelle. L'actualité la plus récente, c'est le scandale des eaux en bouteille, on en reparlera tout à l'heure. Comment qualifier cette catastrophe environnementale, Fabrice Nicolino, qui entoure l'eau, cet élément donc vital pour nous toutes et tous?
Écoutez, l'eau, bien sûr, a été une anecdote personnelle. Quand j'étais mioche, quand j'étais petit dans la banlieue parisienne est, c'est-à-dire l'actuelle Seine-Saint-Denis, j'étais dans une famille très pauvre, et quand j'étais tout mioche, donc on n'avait pas l'eau potable. On n'avait pas l'eau au robinet, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine du coin, figurez-vous. Bon, à cette époque, j'oserais dire que l'eau était probablement de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que partir des années 20 et surtout des années 30, et à commencer par les États-Unis, est née une industrie protéiforme qui est l'industrie de la chimie de synthèse, qui a commencé à créer des molécules, parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, beaucoup le savent, mais ce sont des créations, ce sont des chimères, c'est-à-dire que dans des laboratoires, on crée des molécules à partir d'assemblages d'atomes, on en crée au début quelques dizaines, puis quelques centaines. On invente les plastiques, qui sont une invention de la chimie de synthèse. On invente énormément de molécules. La Seconde Guerre mondiale est un accélérateur extraordinaire. Mmh. On redécouvre le DDT qui avait été synthétisé au 19e siècle. On découvre ses propriétés insecticides, etc., etc. L'arrivée des pesticides, le déferlement des pesticides. Et puis, brutalement, ça augmente. On est passé d'un million de tonnes de plastique produit dans le monde vers 1935 à plus que 500 millions aujourd'hui. Vous imaginez, c'est un changement total, c'est un bouleversement total. Et cette industrie chimique a échappé totalement au contrôle humain, totalement.
C'est-à-dire qu'elle a pu faire tout ce qu'elle voulait faire.
Elle a une liberté totale, absolue. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'une société humaine comme la nôtre a pu accepter d'être à la merci d'une industrie qui, évidemment, poursuit d'autres buts? Je veux dire, je ne lui reproche même pas. Ces buts, on les connaît. Les buts d'une industrie, c'est d'élargir un marché et de gagner de l'argent. Bien, mais ça n'a aucun rapport avec la santé publique ou avec la santé des écosystèmes. Et cette liberté totale qui a été accordée à l'industrie chimique, ça ne pouvait pas provoquer autre chose qu'une catastrophe. Quand vous créez des millions de molécules, parce qu'il faut comprendre, quand on dit des centaines, des dizaines, des centaines, quand on dit par exemple qu'il y a 500 principes actifs de molécules, de pesticides en France, en vérité ça ne veut rien dire, parce qu'il y a commercialement, il y a des millions et des millions de molécules diverses qui ont été commercialisées, dont personne n'a le moindre contrôle, dont la plupart n'ont pas la moindre connaissance. On ne sait pas ce que seront ces molécules individuellement, et alors en cocktail, en synergie, encore moins, on ne sait pas.
In fine, l'état des eaux en général, des cours d'eau en général, paie un lourd tribut à tout ça en fait. C'est la conséquence de ce développement.
C'est comme évident, je veux dire, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Vous avez dans l'eau des rivières, des fleuves, on en parlera tout à l'heure peut-être, dans l'eau des nappes profondes, des nappes phréatiques, dans l'eau du robinet, vous avez des mélanges absolument incontrôlables de milliers et de milliers de molécules qui produisent des résidus de cosmétiques, on en parle pas, mais ça existe, des cosmétiques qui peuvent être très toxiques, vous avez des résidus médicamenteux, vous avez évidemment des résidus de pesticides et d'une quantité phénoménale vous parliez des PFAS tout à l'heure, ces nouveaux arrivants, les polluants éternels, ça n'en finit jamais, on court derrière des molécules qui sont renouvelées ou augmentées chaque jour un peu plus, on ne peut pas, aucun système humain n'est capable d'arrêter cela.
Donc ça veut dire que les fleuves, par exemple, tous les fleuves d'Europe sont globalement tous dans un état très médiocre.
En vérité, lamentable. Si vous voulez, c'est attesté. C'est pas des supputations personnelles. Je veux dire, c'est attesté notamment par la Commission européenne. Et je veux dire, il faut comprendre que les responsables publics, ceux des ministères, ceux de l'Europe, etc. Moi, j'ai recueilli des témoignages en off, bien sûr. C'est des gens qui ne veulent pas parler directement, des hauts fonctionnaires, des responsables vraiment du dossier, qui admettent, qui vous disent franchement que la situation est devenue incontrôlable, que dans le système tel qu'il a été construit, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce qu'on ne peut plus arrêter ces flots de polluants. Ce sont des flots perpétuels.
Il y a quand même des solutions, justement. C'est de pouvoir minimiser au maximum les molécules les plus toxiques.
Non, excusez-moi, je ne crois pas, malheureusement.
Vous n'y croyez plus ?
Non, non. La première des choses, si vous voulez, c'est un sursaut démocratique. C'est-à-dire, il faut reprendre le contrôle sur l'industrie chimique internationale. C'est un combat très difficile.
Et comment on fait ?
Je lance le débat. Je m'adresse à la société tout entière. Je dis, unissons nos efforts en dehors des considérations idéologiques. Unissons nos efforts. La première des priorités, c'est reprendre le contrôle, reprendre une partie du contrôle démocratique sur l'industrie chimique. Parce que si on ne fait pas ça, aujourd'hui c'est les PFAS et demain ça sera d'autres choses. Et avant c'était d'autres choses.
Donc ça veut dire quoi ? Nationaliser ces entreprises ?
Non, je pense, mais ça c'est une histoire bien sûr un peu compliquée, mais quand je parle de sursaut démocratique, ça veut dire forcément une rupture de nature politique, mais pas idéologique. Politique, c'est-à-dire la société a des droits. Nous avons des droits. Je prétends que nous avons le droit d'avoir une autre qualité et nous ne l'avons pas. Donc, posez la question, essayons de débattre. On en débat ici, j'en suis super heureux, mais il faudrait qu'il y ait un débat absolument dans toute la société, dans le moindre village, puisque nous sommes de l'eau. La moindre des choses, c'est de se battre pour l'eau. Et je ne dis pas que les solutions sont évidentes, je pense qu'il n'y a pas de solution à court terme. Première des choses, sans aucun doute possible, c'est reprendre le contrôle sur l'industrie chimique. Et par ailleurs, il y a un débat qui est considérable, qu'on n'aura pas le temps de mener ici, c'est de savoir comment est structurée, pardonnez-moi le mot, est structurée la décision publique en France. Qui décide au fond ?
On l'a vu avec l'affaire des eaux minérales, on en reparlera tout à l'heure.
Mais à l'arrière-plan, si vous voulez, il y a quelque chose dont on parle très peu, enfin très très rarement, c'est la toute-puissance de corps techniques d'État, des grands ingénieurs d'État, des ponts notamment, des ponts et du génie rural et des eaux et forêts. Ça ne dit rien à personne, mais il faut comprendre que ce sont des corps techniques qui décident vraiment de beaucoup de choses en France, dont l'origine remonte très souvent à avant la Révolution française. Vous imaginez, ces corps techniques ont résisté aux révolutions, aux guerres depuis plus que deux siècles. Et c'est eux qui décident.
Donc c'est ça aussi la crise de l'eau pour vous ?
Ah, mais absolument.
C'est un vrai problème institutionnel.
C'est un problème fondamental parce que ces grands ingénieurs d'État, je ne prétends pas les critiquer tous azimuts, ils ont une vision technique de quelque chose qui n'est pas technique, qui est l'eau.
En tout cas, c'est votre nouveau combat. Enfin, c'est pas vraiment le nouveau d'ailleurs, hein, parce que vous êtes toujours intéressé à la question. Vous le rappelez également dans ce livre, c'est l'eau qu'on assassine. Les liens qui libèrent, on vous retrouve dans un instant, Fabrice Nicolino.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Fabrice Nicolino, c'est l'eau qu'on assassine, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. On le disait tout à l'heure, donc il y avait un tournant majeur effectivement au 19e siècle avec l'irruption de la chimie de synthèse qui est devenue une énorme puissance, industrie, vous le rappeliez également, qui a échappé à tout contrôle. Le problème aussi avec l'eau et la pollution de l'eau, c'est qu'évidemment c'est une pollution invisible, très difficile à appréhender, Fabrice Nicolino.
Oui, vous avez raison.
Toutes les sources sont concernées aujourd'hui.
Je vais vous donner un exemple, mais c'est évidemment un exemple parmi tant d'autres. Mais vous voyez, il y a une équipe du CNRS de Toulouse qui a publié il y a quelques semaines une étude sur l'eau du robinet à Toulouse. L'eau qu'on boit, l'eau qu'on reçoit chez soi et qu'on boit en confiance. Eh bien, dans un litre d'eau du robinet à Toulouse, on retrouve plus qu'un millier de microplastiques. Alors, je vous rassure, les microplastiques, c'est la taille nanométrique, donc évidemment, ils sont invisibles à l'œil nu, mais néanmoins, dans un litre d'eau, un millier de microplastiques. Bon, pourquoi est-ce qu'on en retrouve autant ? C'est hallucinant. Tout simplement parce que les méthodes de détection laissent de côté, sont incapables de retrouver 98% de ces microplastiques.
C'est-à-dire qu'on n'a plus les outils technologiques.
On n'a pas les méthodes de détection qui permettraient de répondre à la question posée. Donc vous imaginez bien que les plastiques, il faut comprendre ça avec la chimie de synthèse. Nos corps sont confrontés à des chimères qui n'ont jamais existé avant cette synthèse chimique. C'est-à-dire le corps, il est habitué, notre corps, depuis des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, n'exagérons rien, mais il est habitué à être confronté à des menaces, à des risques, des risques naturels, certes, mais la chimie de synthèse, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, le corps n'est pas habitué. Donc quand on ingère du plastique, des microplastiques, jusqu'à un millier dans un litre, évidemment, le corps ne sait pas comment s'en débarrasser. Et vous retrouvez du plastique aujourd'hui, j'imagine que vous, comme moi c'est sûr,
il n'y a pas de raison,
eh bien, on a du plastique dans le cerveau, avec des conséquences que je n'ai même pas envie de vous détailler, parce que j'ai pas envie de détruire le peu de morale qui existe encore chez vos auditeurs. Donc, mais il y a des conséquences lourdes. On retrouve du plastique, à la taille nanométrique, les microplastiques traversent la paroi des cellules de votre corps, entrent dans le système sanguin et se répandent et vont se fixer pour une partie d'entre eux dans le cerveau.
Et pourtant, tout le monde globalement s'en fout. Fabrice Nicolino, on va d'ailleurs écouter un extrait d'un film qui s'appelle Acide, oui, et qui illustre bien notre discussion.
Alors que le pH de la pluie continue de s'effondrer en Amérique latine, des pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées sur la côte ouest colombienne. Incapables de se protéger, les animaux sont pour l'instant les premières victimes rapportées par les autorités du pays. Causée en partie par l'hyperconcentration des polluants dans l'atmosphère, la communauté scientifique évoque le scénario d'une évolution irréversible du phénomène et de son arrivée probable dans l'hémisphère nord. D'ici à 2030, ce sont plus de 1,5 milliard de personnes au total qui subiraient une pénurie complète d'eau potable si ce phénomène venait...
Pourquoi tu coupes, ça m'intéressait ?
J'en ai pas marre de toutes ces merdes, là. La fin du monde tous les deux jours.
Voilà, tout est résumé dans cet extrait. Juste Philippot avec son film Acide, Guillaume Canet et Laetitia Dutch. Ouais, c'est vrai, tous ces gens qui en ont marre quand on leur raconte la fin du monde tous les deux jours.
Et c'est vrai,
c'est ça aussi l'écologie aujourd'hui.
J'en ai pas marre, moi, d'annoncer tant et tant de choses agréables. J'adore la vie, bien sûr, fondamentalement, j'adore la vie, le soleil, l'eau qui coule dans une rivière, les fleurs qui poussent, ça fait partie de ma vie, mais vraiment intimement. Donc bien sûr, j'en ai marre. Mais c'est pas parce qu'on recule le moment d'agir, qu'on règle quoi que ce soit. C'est maintenant qu'il faut agir, maintenant. Il n'est pas trop tard, je dis, agissons ensemble maintenant pour exiger et obtenir une eau qui soit de qualité.
Les eaux pluviales, hein, j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure dans la présentation, qui se chargent donc aussi en polluant, en lessivant les sols, les bâtiments, et en prenant tout ce qu'il y a au passage.
Il y a des versions officielles, si vous voulez, les autorités ont des propos lénifiants. Lénifiants, ça veut dire que faussement rassurant, adoucissant, et ils vous disent des sornettes, j'entre pas dans le détail, mais la vérité, c'est qu'évidemment, parce qu'une des versions officielles qui circulent encore aujourd'hui, c'est que l'eau de pluie, elle est relativement pure, entre guillemets. Mais évidemment, ce n'est pas vrai, parce que d'abord, elle traverse des nuages qui sont ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire on se rend compte que toutes les eaux de pluie de toute la planète sont chargées en PFAS, ces polluants éternels, parce qu'ils sont là pour des siècles, au moins, et peut-être pour des millénaires. Donc quand on en arrive à une situation pareille, que toute la Terre, l'Antarctique y compris, est touchée par le phénomène, alors bien sûr, on se dit que les eaux de pluie, qui étaient, je ne sais pas, pour vous comme pour moi, comme pour tous nos auditeurs, c'est la pluie, c'était le bonheur, disons. Quand vous vous baladez à Paris, on est à Paris aujourd'hui, quand on se balade à Paris, qui pleut, jadis, c'est un bonheur pur. Maintenant, vous savez qu'il y a des résidus de pesticides ou de PFAS dedans. Et pas qu'à Paris, mais est-ce que c'est acceptable ?
Vous parlez beaucoup des métabolites
c'est important.
Dans cet ouvrage.
Ah, c'est très important.
Donc c'est quoi les métabolites ? Parce que Paris, on les connaît pas très bien, c'est des résidus de pesticides ?
Non, c'est des produits de dégradation. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que figurez-vous que il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Moi, j'ai commencé à en parler avec le mouvement des coquelicots. Je me suis intéressé à cette question qui est fascinante.
Alors, c'est quoi exactement ?
Un pesticide, c'est un produit dégradé. Un pesticide, notamment, mais tous les produits chimiques, c'est pareil. Tous les produits chimiques de synthèse se dégradent sous le soleil, sous la pluie, en fonction du sol, de la température, de toute une série d'événements comme ça, ils se dégradent. C'est-à-dire la molécule de départ se dégrade et fabrique en quelque sorte, en se dégradant, une autre ou d'autres molécules. On pense qu'un pesticide, par exemple, c'est un ordre de grandeur, parce que ça varie énormément, mais on peut dire qu'un pesticide peut former 4, 5, 6 métabolites dans le cours de sa vie. On sait par des recherches de l'INRA, qui est un institut public, que beaucoup de métabolites sont plus toxiques que la molécule d'origine. C'est absolument incroyable. Plus toxiques que la molécule. Donc on devrait s'interroger, et on ne s'intéresse pas aux métabolites. On s'y intéresse très peu. Ou quand on s'y intéresse, si je peux en parler, parce que c'est très 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 important pour moi, vous voyez, il y a un métabolite d'un pesticide qui s'appelle le chloroatonil, je crois. En tout cas, c'est un pesticide qui a été interdit en Europe à partir de 2020. Et parmi ces métabolites, il y a un métabolite qui n'a pas de nom, qui s'appelle le R471811, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, R471811. C'est un métabolite de ce pesticide. Et quand l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire, a décidé de faire des analyses, des prélèvements sur l'eau distribuée au robinet en avril 2023, 136 000 prélèvements, c'était pas une petite affaire, 136 000 prélèvements, et l'ANSES se rend compte que on retrouve dans la moitié des échantillons le R47-18-11.
Vous dites, Fabrice Nicolino, que de nombreux captages d'eau risqueraient d'être fermés si on prenait en compte les métabolites dans les analyses de qualité de l'eau.
C'est évident.
Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas fait.
Mais bien sûr que non, on peut pas. On peut pas. Alors, je reviens, excusez-moi, une seconde sur ce métabolite, parce qu'on retrouve ça dans les 136 000 prélèvements. Alors, à ce moment-là, on est dans l'embarras, et ça rejoint votre question. On est dans l'embarras parce que dans un tiers des échantillons, ça dépasse les limites acceptables qui sont pour un métabolite pertinent, je vous explique en deux mots, qui sont de 0,1 microgramme par litre d'eau. Ça ne peut pas dépasser 0,1 microgramme, mais justement, dans un tiers des échantillons, ce R471811, ça dépasse très largement la limite de qualité. Donc, il faudrait arrêter de distribuer. Mais on ne peut pas, parce que c'est de l'eau du robinet. Et alors, il se passe un événement et qui est fondamental à comprendre. Il y a pour moi, c'est une arnaque officielle. C'est-à-dire que on est coincé. On devrait arrêter de distribuer cette eau, mais on ne peut pas parce que les gens attendent de boire, tout simplement. Et donc, on va casser le thermomètre. C'est une opération absolument géniale.
Et comment on fait alors ? Comment on procède ?
Alors, je vous explique. D'abord, il y a une alerte. Il y a des réseaux de distribution d'eau qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Par exemple, un réseau qui s'appelle Eau de Vienne qui dit « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ah, tiens, mais il paraît que l'ANSES va modifier son jugement. Car l'ANSES, en 2022, l'année d'avant, avait dit « Oh là là, ce R47-18-11, c'est très dangereux. L'EFSA, l'autorité européenne, nous dit que c'est cancérogène. Oh là là, c'est
Alors comment on casse le thermomètre ? On change les normes, on fait
quoi ? On change les normes. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a ces analyses, et en 2024, l'ANSES dit finalement, tout bien considéré, ah non, c'est pas 0,1 microgramme par litre, ça va être 0,9. C'est-à-dire une multiplication par 9 de la norme. Alors évidemment, le problème reste.
Il reste intrinsèquement, mais il disparaît
officiellement. Administrativement, il disparaît. Or, l'ANSES, Comment elle a pu changer en si peu de temps ? Eh bien, tout simplement en s'appuyant sur des documents de Syngenta, qui est le fabricant, l'entreprise chimique, qui a été rachetée quand même par la Chine et qui est présidée par un dirigeant élevé du Parti communiste chinois, qui est quand même une structure totalitaire.
Donc ils édictent leurs propres normes, c'est ça ? Et on prend ça en compte ?
L'ANSES s'est appuyé sur des informations que Syngenta lui avait données pour dire « Ah ben non, ça c'est pas pertinent tout ça, et donc c'est pas 0,1, c'est 0,9 ». En s'appuyant sur une structure totalitaire de la Chine, c'est quand même incroyable.
On parlera de l'utilisation de l'eau pour le nucléaire en particulier dans un instant, évidemment dans un contexte majeur de stress hydrique qui va se augmenter évidemment dans les prochaines années. Et puis l'affaire des eaux en bouteille, des eaux minérales naturelles, vous commenterez également cette actualité. Fabrice Nicolino, et puis vous répondrez aux messages, aux questions et aux témoignages qui arrivent sur franceinter.fr autour de l'eau.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Nous payons actuellement le laxisme de 30 années de non-politique de l'eau. Déjà en 1970, nous avions attiré l'attention sur le problème de la liaison entre déstructuration du bocage, arrivée du maïs, arrivée des engrais minéraux, arrivée des pesticides, sol nu pendant l'hiver et qualité de l'eau. Actuellement, nous faisons le constat, un constat qui est déplorable pour toute la France, puisque entre 50 et 75% des eaux risquent de ne pas atteindre le bon état écologique demandé en 2015.
Et oui, car cette archive remonte à 2005, donc il y a 20 ans, Jean-Claude Lefeuvre, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Formidable personnage.
Et vous partagez le même constat, Fabrice Nicolino, aujourd'hui encore?
Moi, j'ai retrouvé pour ce livre un dossier que j'avais fait en tant que journaliste au printemps 1989 sur l'eau, où j'étais vraiment étonné moi-même, où il apparaissait dans ce dossier qui était complet, en fait, que toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui étaient déjà connues.
On a parlé des contaminations, il faut aussi dire quelques mots sur l'utilisation de l'eau, parce que vous faites référence par exemple à la consommation de l'industrie nucléaire, et c'est un sujet majeur dans un contexte, évidemment, le réchauffement climatique va affecter les réacteurs de plus en plus. Ça consomme combien d'eau en fait les réacteurs en France aujourd'hui?
Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, simplement, si vous voulez, c'est très simple, il faut refroidir les réacteurs constamment, c'est pourquoi les réacteurs sont sur les rivières, oui, et fleuves, et au bord de la mer, il faut des quantités d'eau phénoménales, mais le problème, alors parce que les défenseurs du nucléaire qui sont nombreux et puissants vous disent que ça pose aucun problème puisqu'on restitue l'eau au milieu naturel, sauf que entre l'eau qui arrive, par exemple, si vous avez au bord du Rhône, par exemple, des centrales nucléaires, l'eau qui entre et qui va refroidir les réacteurs, elle est rejetée ensuite dans le milieu naturel, dans le fleuve en l'occurrence, mais à une température effarante par rapport à la température à laquelle elle était entrée. Évidemment, ça détruit, ça détruit évidemment, mais tout le monde le sait.
En 2023, c'est EDF qui réclamait un assouplissement des textes réglementaires sur les rejets d'eau chaude des centrales nucléaires. Or, les conséquences sont lourdes, évidemment, pour la faune.
Elles sont lourdes, mais on sait avec certitude, en tout cas, on sait officiellement que le débit des fleuves, sur fond de dérèglement climatique, va baisser de manière très importante, voire drastique. Donc vous vous retrouvez avec un réseau de réacteurs nucléaires partout en France, avec une ressource en eau qui va diminuer, qui diminue chaque année un peu plus, mais on veut construire de nouveaux réacteurs. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, ça ne va pas ensemble, c'est incompatible.
La question de l'agriculture aussi, on n'aura pas le temps d'en parler.
Bien sûr, c'est
un vrai sujet.
Bien sûr, mais si vous voulez, il y a 93% des surfaces agricoles qui ne sont pas irriguées. Donc l'irrigation, c'est 7%, c'est quand même une toute petite partie de l'agriculture, mais elle consomme et rejette une eau qui est extraordinairement polluée. Par quoi? Je vous laisse deviner, par les pesticides, évidemment.
L'affaire de la semaine, c'est évidemment le scandale des eaux en bouteille, avec la commission d'enquête parlementaire du Sénat qui a rendu lundi ses conclusions, mettant en lumière l'ampleur de l'implication de l'Élysée dans la gestion du scandale des eaux Nestlé. Que vous inspire cette affaire, Fabrice Nicolino?
Moi, je souhaite des procès. Je souhaite des procès, je souhaite que le maximum de citoyens de ce pays s'engagent dans des poursuites judiciaires. Pourquoi?
Mais contre qui, là, en l'occurrence? Contre le président de la République?
Mais pourquoi pas? Mais redressons la tête un petit peu. Vous savez, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui stipule en toute clarté que tout officier public, tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement saisir le procureur de la République. Ok, ça c'est la loi commune, celle à laquelle on est soumis. Eh bien ces gens-là, que ce soit le président de la République ou le pape de Rome, je veux dire, à partir du moment où vous ne respectez pas la loi, vous devez en payer le prix, et puisque ces gens ont accepté gaiement de truander en notre défaveur, en permettant à Nestlé, en permettant à Perrier de
d'utiliser des traitements interdits.
Ils ont installé des filtres totalement illégaux. Ils l'ont fait avec la bénédiction de notre gouvernement. C'est hallucinant. Et dans ces conditions, puisque la loi a été violée, mais au vu et au su de tout le monde, moi je dis, et j'en appelle aux avocats, j'en appelle aux associations, et j'en appelle à toute la société, traînons ces gens-là en justice, montrons un petit peu notre force, ne soyons pas tout le temps à nous soumettre comme on le fait, il y a quelque chose d'insupportable.
On va passer tout de suite aux questions parce qu'elles sont très nombreuses pour vous, Fabrice Nicolino, il nous reste 5 minutes. Avec les messages qui arrivent, alors, sur les filtres, tiens, par exemple, Jérôme nous dit que valent les fontaines à eau filtrées, on en voit énormément en ce moment, les gens essaient de se protéger à la maison, est-ce que ça vaut quelque chose ça ou pas?
Alors, moi je ne suis pas un technicien de l'affaire, je vais vous dire ce que je pense. Bien sûr que ça sert à quelque chose, ça peut un filtre, il arrête toujours quelque chose, si je puis me permettre. Il est certain que ça arrête un certain nombre de choses. Est-ce que c'est efficace, comme certains le prétendent, comme les commerciaux de ces entreprises le prétendent ? Je dirais que non. Je dirais que non, car il faudrait des fils d'une nature tout à fait différente pour vraiment arrêter. Et on n'arrêtera jamais tous les polluants, il y en a beaucoup trop, et leur taille est telle qu'aucun filtre n'est capable d'arrêter tous les polluants. Moi, je comprends très bien qu'on achète un filtre pour protéger sa famille, ça me paraît de bon sens, de bonne aloi, mais ça sert à quelque chose, mais ça ne suffit pas.
Marie, beaucoup de messages en ce sens. Annick, mais que faire quand on vous entend ? Évidemment, Fabrice Nicolino, j'entends toutes ces alertes sur l'eau, dit Marie, il y a de quoi avoir peur, mais que devons-nous faire ? L'eau du robinet, l'eau en bouteille, si tout est pollué, alors la seule solution est-elle d'élire des dirigeants sensibilisés d'abord, pour commencer ?
Sans doute qu'il y a une question politique fondamentale derrière tout ça. Qui élisons-nous et pourquoi ? Je veux dire, moi, je ne suis pas désespéré. On le sent peut-être au son de ma voix. Je pense qu'il faut unir les forces disponibles. J'ai parlé du mouvement des coquelicots. Je pense qu'il faut faire la même chose. Il faut unir un grand mouvement populaire, en dehors des considérations idéologiques habituelles, pour se battre ouvertement, clairement, sans aucun détour, pour une eau qui ne soit pas polluée. Parce que le fond de l'affaire, c'est ça. Tous les systèmes visent à dépolluer, y compris les fils dont on parlait à l'instant. Mais moi, je dis qu'il faut faire une révolution de type copernicien et se dire, même si on n'y arrive pas demain, ni même après-demain, il faut se dire que l'objectif, parce que nous sommes de l'eau, c'est de ne plus jamais polluer l'eau et considérer que polluer l'eau, c'est un crime. C'est un crime contre nous-mêmes, c'est un attentat contre nous-mêmes. Polluer l'eau, c'est un attentat contre nous-mêmes.
Donc plutôt que dépolluer, se fatiguer à dépolluer et de...
Il faut absolument
des frais
inverser.
Sidéraux d'ailleurs. Hein.
Il faut reconstruire les process industriels, agricoles et domestiques. Il faut les repenser, les reconstruire. Ça prendra du temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Oui, mais c'est nécessaire. Il faut les reconstruire de manière à ce qu'il n'ait plus le droit et la possibilité de polluer l'eau. Il est absolument, absolument impossible de supporter cette idée simple que l'eau soit polluée.
Alain dit, quand la justice va-t-elle enfin faire son travail ? Petite remarque en passant. Et puis Marie de Rouen, mais alors ? Parce qu'évidemment, en attendant de faire la révolution, il faut quand même qu'on boive. Comment boire de l'eau aujourd'hui ? Quelle eau est la moins risquée, selon vous, Fabrice Nicolino ? Selon les régions en plus, parce qu'il y a énormément de disparités.
Moi, je ne peux pas donner de conseils. Je veux dire, je serais de mauvais conseils. Je sais que je ne bois pas de l'eau du robinet. Je vous le dis franchement, je ne bois pas de l'eau du robinet. Mais pas tellement pour me protéger moi, j'avoue que je m'en fous un peu, si vous me permettez. Mais c'est plutôt l'idée que je veux boire de l'eau. Je veux boire quelque chose qui n'est pas un produit industriel.
Bah oui, alors comment vous faites ? Vous achetez des bouteilles d'eau, donc ?
Oui.
Que vous allez payer 400 fois plus cher que l'eau du robinet ?
Oui.
Et dans lesquelles on trouve...
Tout ça est absolument problématique. Il n'y a rien de safe et il n'y a rien de bien dans cette histoire. Mais moi, l'individu que je suis, et dans le temps qui m'est compté, je veux boire quelque chose qui ne soit pas un produit industriel maltraité par des multitudes de traitements de traitements physico-chimiques. Ça, je ne veux pas.
Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, on n'a pas la réponse, quoi. C'est-à-dire qu'entre l'eau du robinet ou l'eau qu'on achète en bouteille, quid, finalement, de la...
Mais parce que c'est un phénomène généralisé. Il faut admettre ça. Dans mon livre, on n'aura pas le temps d'en parler, mais dans mon livre, je parle de l'eau de baignade, c'est-à-dire l'eau de baigner en mer. Il y a des choses à dire là-dessus, tout le monde s'en fout aussi.
Il y a des laboratoires à Bordeaux d'ailleurs,
exactement,
vous citez un labo à Bordeaux qui a étudié la question.
Exactement, cette eau...
Ça devient dangereux aujourd'hui, sans alarmer évidemment tout le monde.
Problématique avec des espèces de trucs publicitaires comme les pavillons bleus qui ne veulent strictement rien dire du tout.
La conclusion, le mot Fremen, tiens, pour conclure, Fabrice Nicolino.
Merci
beaucoup. Pour faire retomber la tension.
Merci,
ouais, un petit
merci
peu.
Beaucoup. Alors moi, il y a 25 ans de ça, j'ai lu, comme beaucoup de lecteurs, j'ai lu le roman de Frank Herbert, Dune, qui est merveilleux. J'ai lu que les deux premiers tomes, parce qu'après, ça a dégénéré en guerre qui m'intéressait beaucoup moins. Mais les deux premiers tomes, c'était génial pour moi, parce que ça parlait d'une planète aride, Dune, qui ressemblait étrangement au Sahara. Et à l'intérieur de ce désert, il y avait un peuple, les Fremen, qu'on croyait un peu exterminés, mais qui survivaient dans des grottes et qui qui parce qu'ils vivaient dans l'aridité, ils attrapaient avec des énormes tissus, ils attrapaient de un peu d'humidité, ils remplissaient des énormes réservoirs.
Avec la rosée en particulier.
Oui, et dans l'idée de réensemencer de cette planète complètement aride, de lui redonner de la vie, et c'était ça leur objectif, et pour atteindre cet objectif, ils considéraient que l'eau était sacrée, qu'on n'avait pas le droit d'y toucher, qu'on n'avait pas le droit d'en perdre. Ils avaient même fabriqué des espèces de costumes spéciaux qu'on appelait distilles, qui permettaient de recycler l'eau. Et moi, je veux que nous devenions tous...
Des Fremen.
Ouais, je veux que... Ouais, c'est ça.
La révolution de l'eau.
Je nous souhaite à tous de devenir demain, ou après-demain, ou plus tard, des Fremen.
Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Fabrice Nicolino. C'est l'eau qu'on assassine, hein. PFAS, pesticides, microplastiques, cosmétiques, médicaments, il y en a pour tout le monde.
Pour tous les goûts.
C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Micro de la Terre au Carré.